Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à un physicien théoricien, Édouard Brézin.
Très heureux, merci de m'accueillir.
Souvent, les scientifiques, dont toi et moi d'ailleurs, on a toujours tendance à dire « Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent, les gens qui n'y comprennent rien ? Nous avons la vérité. » Alors bien sûr, toi et moi, nous en sommes convaincus, mais il faut quand même mettre quelques bémols à cette affirmation.
Le concept de vérité n'a cessé d'évoluer jusqu'à la période contemporaine. Chez les physiciens eux-mêmes, l'histoire nous a présenté des révisions déchirantes.
Et douloureuses.
Et douloureuses, oui. Personne ne voulait abandonner les conceptions sur le vide, par exemple, sur le calorique jusqu'au début du 18e, même la fin, Lavoisier croyait au calorique, et Dieu sait ce que c'était un grand chimiste.
Sans oublier les conceptions aristotéliciennes.
Sur aussi bien le vide, la substance qui constituait la matière, tout cela, il a fallu y renoncer progressivement, et s'est heurté finalement à la grande révision de la science expérimentale. Je crois que c'est là où on est passé de conceptions anciennes où les gens essayaient de réfléchir du mieux qu'ils pouvaient, mais n'avaient pas ce sentiment que la nature était interrogeable, jusqu'à Galilée en gros et tous ceux qui ont suivi, Pascal en France et bien d'autres, qui se sont mis à interroger, expérimenter, ce qui a conduit à des révisions profondes de ce qu'on croyait être des vérités. Par exemple, Pascal a montré expérimentalement que ce qu'on appelait l'horreur du vide depuis Aristote n'était que l'effet de la pression atmosphérique.
Donc en gros, depuis Galilée, on peut dire ce qui est vrai, c'est ce que je constate.
Voilà, c'est ce qui a un échange avec l'expérience. Et progressivement, de Galilée à Newton, on va dégager une mécanique, c'est-à-dire comment les différents corps peuvent interagir, par exemple les planètes tournées autour du Soleil, et le triomphe de cette dynamique newtonienne va être de pouvoir reproduire les lois connu depuis Kepler, mais qui n'avait aucune autre base que l'observation. Donc, à partir de ce moment-là, la dynamique newtonienne va triompher et plus personne ne la remettra en question.
Cela dit, Newton, ce n'est pas que de l'expérience.
Ce n'est pas que de l'expérience et il a quand même des phrases dans lesquelles il dit que sa théorie de la gravitation dans laquelle deux planètes distantes interagissent instantanément, aussi éloignée soit-elle.
On a toujours du mal à le digérer.
Hein. Mais oui, il dit que ça n'a aucun sens, mais il est le seul pendant longtemps à avoir remis ça en question, qui évidemment va être le centre des interrogations d'Einstein. Donc la dynamique newtonienne va être triomphante jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y a toujours des comparaisons avec l'expérience. Maxwell, qui est quand même un grand homme qui va remettre tout ce qu'on connaissait de l'électricité et du magnétisme et de la lumière ensemble, va comprendre que la lumière n'est qu'une onde, il va prédire des ondes, il va comprendre que la lumière se propage avec une vitesse qui calcule en fonction de l'électricité et du magnétisme. C'est un triomphe.
On parle de Galilée, on parle de Newton. L'un comme l'autre, on dit des choses fausses. Galilée avait une théorie des marées totalement ridicule, on peut le dire aujourd'hui. Newton a dit aussi quelques bêtises sur la lumière.
La nature de la lumière, est-ce que le phénomène d'interférence qui pointait vers la lumière onde et le phénomène corpusculaire que d'autres voyaient dans des corpuscules encore inconnus.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient dans l'erreur ?
Oui, ils étaient à l'époque, tant qu'on ne pouvait pas faire d'expérience, on ne pouvait pas faire d'expérience réellement conclusive, les théories microscopiques de la lumière étaient légitimes les unes comme les autres. On ne peut pas se moquer d'Aristote. Ces gens-là faisaient ce qu'ils pouvaient faire de mieux. À une époque, ils n'avaient aucun moyen d'expérimenter. Au XIXe siècle, les gens, beaucoup vont réfuter l'existence d'atomes, que pourtant Maxwell et Boltzmann vont mettre au centre de leur conception, mais finalement les atomes ne seront observés qu'après Jean Perrin.
Mais à cette époque, est-ce qu'il y avait la même, j'ai envie de dire, arrogance qu'on entend parfois aujourd'hui chez des scientifiques qui disent « moi, j'ai la vérité ».
Je ne crois pas. Si je relis un livre qui nous a marqué, toi comme moi, qui est Poincaré sur la science et l'hypothèse, je ne vois pas un Poincaré arrogant. Je le vois essayant de décrire ce qu'on peut faire de mieux avec les concepts qu'on a, essayer de comprendre la relativité qui, à l'époque, bouleverse les conceptions sur le temps, mais n'essayant pas de dire « à partir de maintenant, on n'a plus le droit de remettre quoi que ce soit en question ».
Poincaré, certainement pas, mais c'est très difficile pour un scientifique d'être sur un plateau télévision, par exemple, et dire ce que tu viens de dire, que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité d'aujourd'hui, sans être taxé, critiqué, accusé de relativisme.
Je vais prendre un exemple. Un jour, un ingénieur me disait « vous croyez que rien ne va plus vite que la lumière, mais c'est ce que vous croyez aujourd'hui ». Alors je lui ai dit « oui, effectivement, c'est ce que je crois aujourd'hui, parce qu'il y a dans nos GPS des milliards d'expériences qui ne marcheraient pas. Aucun GPS ne marcherait si la théorie de la relativité n'était pas correcte. Donc, si un jour elle est corrigée, ce ne sera pas à cette échelle-là qu'elle sera corrigée. » La notion de vérité est devenue adaptée à ce que nous observons, ce que nous sommes capables d'observer. La vérité de Newton n'est pas remise en question. Chaque fois qu'on lance un satellite, personne ne s'amuse à tenir compte de la mécanique quantique. Ça serait impossible, ça n'a aucun sens. La dynamique newtonienne est restée vraie, elle est corrigée lorsqu'on rentre à l'échelle du nanomètre dans les atomes, elle est corrigée lorsque les vitesses se rapprochent de celles de la lumière. Ça ne veut pas dire que Newton avait tout faux, au contraire, et c'était merveilleux, mais aujourd'hui, nous avons des conceptions différentes.
Dans une échelle de temps et d'espace qui était celle de Newton.
Exactement.
Newton envisageait des interactions immédiates.
Immédiates, ça le choquait beaucoup. Ça a conduit finalement, les gens se sont interrogés sur la vitesse de la lumière, vitesse par rapport à qui, par rapport à quoi. Et donc, il y a une célèbre expérience de deux Américains, Michelson et Morley, qui essayent de trouver le vent que subirait la Terre par rapport à ces ondes électromagnétiques, le vent d'éther, comme on disait, et ils constatent qu'il n'y a aucun vent d'éther, c'est-à-dire que la lumière se propage à la même vitesse par rapport au Soleil, par rapport à la Terre, par rapport à tous les observateurs, ce qui contredit complètement la conception simple de Galilée lorsque les vitesses ne se rapprochaient pas de celles qu'on observe avec la lumière.
Newton avait besoin de cet éther comme une espèce de milieu, même un peu oui. Théologique même.
Quand Lavoisier croit aux calories, il croit que si un corps chaud touche un corps froid, un fluide invisible coule du chaud vers le froid et réchauffe le corps froid.
Résumons, tous ces gens n'étaient pas dans l'erreur. Ils étaient dans une vision cohérente du monde, en cohérence avec les observations la plupart du temps.
Exactement.
Et en ce sens, ce n'était pas des erreurs à l'époque.
Pas des erreurs à l'époque, et c'était la conscience qui est progressive, et sur laquelle je vais revenir, mais que les vérités sont adaptées à des échelles de temps et de longueur mesurables à l'époque dont on parle. Et il ne faut pas être arrogant et imaginer que nos vérités seront des vérités absolues à jamais.
Divines.
Divines, voilà.
Donc ça veut dire que tout ça est un peu compliqué et en tout cas très difficile à expliquer au grand public.
Je vais essayer d'en arriver à une période plus proche de nous. Si on regarde la deuxième moitié du XXe siècle, c'est le triomphe de la théorie et bientôt ce triomphe ramené à un peu plus de modestie. Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, les physiciens expérimentateurs et théoriciens arrivent à mettre ensemble tout ce qu'on savait de l'électricité, de la relativité. On arrive à une théorie qui s'appelle l'électrodynamique quantique. C'est une merveille, merveille expérimentale. Par exemple, les expérimentateurs mesurent le moment magnétique de l'électron. L'électron, c'est comme un petit aimant. Si on le retourne dans un champ magnétique, ça coûte de l'énergie. On mesure cette énergie et ils s'aperçoivent que cette énergie, ils peuvent la mesurer avec une précision de 10 chiffres significatifs. Incroyable, parmi les expériences les plus précises qui aient jamais eu lieu. Les théoriciens de l'époque qui calculent, la vision vers les années 60-70, quand je suis étudiant, c'est que ces vérités sur l'électromagnétisme sont valables depuis les galaxies les plus lointaines, car les atomes ont l'air d'avoir les mêmes lois que les nôtres, jusqu'aux microscopes les plus fins, et ce qu'on appelle aujourd'hui microscopes sont les accélérateurs de particules. Donc là, on est avec l'électromagnétisme, ce modèle qui a si bien marché pour l'électromagnétisme, les physiciens essayent de le reproduire pour les interactions à l'intérieur d'un noyau où il y a des interactions fortes nucléaires. Triomphe de nouveau des théoriciens des années 70, on fabrique une magnifique théorie qui s'appelle la chromodynamique quantique, dans laquelle on voit des quarks qui interagissent en échangeant des particules hypothétiques qu'on appelle des gluons, que personne n'a jamais vu. Jusque dans les années 80, où les expériences du CERN trouvent ces gluons qui s'appellent les W, les Z, et puis après ceux des interactions fortes des quarks. Donc là, on arrive à des théoriciens un tout petit peu portés par leur hubris qui nous lancent la théorie du tout, the theory of everything. Il va se passer deux choses. L'une d'entre elles, c'est un retournement épistémologique très intéressant. On se rend compte que les échelles mesurables dans ces grands accélérateurs du CERN, cette microscopie qu'on croyait ultime de la matière, en réalité, n'est qu'une limite de très grande distance par rapport à ce qu'on ignore. Ce qu'on ignore, ce sont les échelles où la gravitation et la mécanique quantique se mettent à jouer, pour lesquelles on est perdu et on est encore très perdu. Donc, première chose, un homme qui s'appelait Ken Wilson dit, écoutez, non, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de regarder des distances macroscopiques par rapport à l'ignorance, et ce qu'on voit n'est qu'une théorie effective, un peu de modestie, c'est parce qu'on est dans une limite de grande distance qu'on a engendré ce qu'on croyait ultime, et on se rend compte que ces théories qu'on croyait ultimes, comme l'électromagnétisme quantique dont je parlais, est une théorie qui, effectivement, si on essaye de la poursuivre à plus courte distance, avec une microscopie plus fine, n'est plus cohérente. Effondrement. Nous sommes encore dans cette situation. Il n'y a pas de théorie satisfaisante permettant d'aller jusqu'au Big Bang, jusqu'à ces échelles d'énergie, de temps infinitésimaux, de distance infinitésimale, où il existe d'autres phénomènes que ceux que nous observons, qui, pour l'instant, sont totalement mystérieux.
Mais tes collègues sont persuadés, une espèce de foi presque religieuse, qu'il y a quelque chose à comprendre.
Oui, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'il y ait deux visions du monde, l'une des interactions entre particules, et l'autre, qui était celle d'Einstein de la gravitation, qui est une vision d'une géométrie fixant donc les interactions gravitationnelles, on ne peut pas les concevoir séparément, en particulier quelqu'un bien connu du public pour de bonnes raisons, qui s'appelait Hawking, est le premier à signaler que les trous noirs qui avaient été prédits par cette relativité générale d'Einstein, qui maintenant sont observés dans toutes les galaxies, ces trous noirs ont un effet d'évaporation quantique, et ce qui montre qu'on ne peut pas séparer. Il y a des effets quantiques de la gravitation et qui, eux, sont sans doute observables. Par exemple, quand on a construit le CERN, le grand accélérateur qui s'appelle le LHC, un certain nombre de citoyens effrayés par la science se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe si ce CERN crée un trou noir? Est-ce qu'il va avaler toute la Terre ?» Et les malheureux physiciens, les théoriciens de l'époque, ont dû calculer et montrer que l'évaporation quantique des trous noirs impliquait que quand bien même on en produirait un, sa durée de vie serait si courte qu'il n'aurait aucun effet. Voilà, nous sommes dans ces vérités relatives avec lesquelles nous vivons aujourd'hui.
Tu as employé le mot vérité relative, qui n'est oui. pas très loin du alternative facts, n'est-ce pas, Trumpien?
Oui, mais ça ne veut pas dire alternatif, tout de même. Il ne faut pas se tromper. Lorsque, si j'en reviens à notre GPS, chacun de nos téléphones repose sur une dizaine de satellites et le fait que la communication entre les satellites et nous repose sur gravitation, relativité restreinte, électromagnétisme, les lois de la physique, même la relativité générale, encore plus dans ce cas-là, le fait que la gravitation ne soit pas les mêmes à l'altitude du satellite que sur la Terre est une correction essentielle, sinon on se tromperait de kilomètres dans nos GPS.
Ce qui m'intéresse dans ton discours, c'est que j'ai quand même l'impression, en t'écoutant, c'est un point de vue philosophique tout à fait respectable et à vrai dire j'y suis assez proche, c'est que tu es intimement convaincu de l'existence d'un espace et d'un monde objectif que nous observons.
Je trouve quand même que le fait que nous ayons constaté que les mêmes lois de la physique ne nous sont pas réservées à nous, terrestres, mais qu'on voit les mêmes atomes, les mêmes spectres, aussi loin dans l'univers qu'on observe, aussi proche du Big Bang qu'on ait pu observer, c'est toujours la même physique. L'universalité de ces lois, je ne suis pas croyant, mais d'une certaine façon, la majesté des lois de l'univers qui fascinait Spinoza, par exemple, je la partage.
J'ai deux questions à te poser. Donc la première est très courte. Est-ce que tu dirais que la vérité est unique?
Là où nous comprenons, cette vérité ne peut pas être remise en cause. Nous comprenons que la Terre est ronde, c'est une vérité unique. Le platisme est une bêtise.
Et la deuxième question, je crois que tu la connais déjà, parce que je t'ai déjà interrogé derrière ce micro. Je sais que tu aimes la musique.
Oui.
Est-ce que tu peux me trouver une musique qui illustre la vérité?
Alors je trouve que le triomphalisme de Beethoven dans la troisième symphonie est une croyance dans l'homme et dans sa puissance. J'en viendrai à des musiques plus calmes, par exemple. Je trouve que le mouvement lent du trio de Schubert, du deuxième trio de l'opus 100, est une telle sérénité et profondeur que ça me paraît une réflexion sur le monde.
Thank you.
petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.